Cette nuit, il n'y aura pas de miracle. Il n'est pas question de me dérober à ce qui m'attend demain. Ce n'est pas l'envie qui manque. Une seule fois, je me suis mal servi de ce pouvoir de l'écorce. J'avais faim. Les fruits du figuier n'étaient pas mûrs. Moi qui avais tellement le désir de mordre dans une figue chaude de soleil, juteuse et sucrée, j'ai maudit l'arbre. Je l'ai condamné à ne jamais porter de fruits. J'ai prétexté une parabole, pas la plus convaincante. Comment ai-je pu commettre une injustice pareille? Ce n'était pas la saison des figues. C'est mon unique miracle destructeur. En vérité, ce jour-là, j'ai été commun. Frustré dans ma gourmandise, j'ai laissé mon désir se transformer en colère. La gourmandise est pourtant une très belle chose. Il suffisait de la garder intacte, de se dire que d'ici un ou deux mois, je pourrais la combler. Je ne suis pas sans défaut. Il y a en moi une colère qui ne demande qu'à jaillir. Il y a eu l'épisode des marchands du temple. Au moins, ma cause était juste. De là à dire « je suis venu apporter le glaive », il y a de la marge. À la veille de mourir, je m'aperçois que je n'ai honte de rien, sauf du figuier. Je m'en étais vraiment pris à un innocent. Je ne vais pas me morfondre dans un regret stérile, je suis simplement contrarié de ne pas pouvoir aller me recueillir auprès de cet arbre, l'embrasser, lui demander pardon. Il suffirait qu'il me pardonne, et sa malédiction s'achèverait à l'instant. Il pourrait à nouveau porter des fruits et s'enorgueillir de leur poids délicieux sur ses branches. Je me rappelle ce verger traversé avec les disciples. Les pommiers croulaient sous les fruits. Nous nous étions gorgés de ces pommes, les meilleures que nous ayons goûtées, croquantes, parfumées, juteuses. Nous nous étions arrêtés quand nous n'en pouvions plus, le ventre prêt d'exploser, et nous nous étions écroulés par terre en riant de notre gloutonnerie. « Toutes ces pommes que nous ne pourrons pas manger, que personne ne mangera !» a dit Jean. « Quel chagrin !»« Qui a du chagrin » ai-je demandé. « Les arbres. Crois-tu ? Les pommiers sont heureux de porter leurs pommes, même si personne ne les mange. Qu'en sais-tu ? Deviens le pommier. » Jean avait un peu gardé le silence, et puis il avait dit « Tu as raison. » Le chagrin, c'est nous qui l'éprouvons, à l'idée de ne pas pouvoir tout manger. Éclat de rire général. J'avais été un meilleur homme avec le pommier qu'avec le figuier. Pourquoi ? Parce que j'avais assouvi ma gourmandise. On est quelqu'un de meilleur quand on a eu du plaisir. C'est aussi simple que cela. Seul dans ma cellule, j'ai l'impression d'être ce figuier que j'ai maudit. Cela me rend triste. Alors je fais comme tout le monde. J'essaie de passer à autre chose. Le problème de cette méthode, c'est qu'elle ne fonctionne pas très bien. Pommier, figuier... Je me suis demandé à quel arbre Judas s'était pendu. On m'a dit que la branche s'était cassée. Il fallait que cet arbre ne soit pas solide, car Judas ne pesait pas lourd. J'ai toujours su que Judas me trahirait. Conformément à la nature de ma préscience, je ne savais pas comment il s'y prendrait. Ma rencontre avec lui fut particulièrement forte. J'étais dans un bled perdu où je ne comprenais personne. À mesure que je parlais, je sentais monter l'hostilité, au point que je me voyais avec les yeux des autres et que je partageais leur consternation envers ce guignol venu prêcher l'amour. Dans la foule, il y avait ce garçon maigre et sombre qui suintait le malaise par tous les pores. Il m'interpella en ces termes. « Toi qui dis qu'il faut aimer son prochain, est-ce que tu m'aimes ?»« Bien sûr. »« Ça n'a aucun sens, personne ne m'aime. Pourquoi m'aimerais-tu ? » Pas besoin d'une raison pour t'aimer.
Ouais, c'est n'importe quoi.
Les gens éclatèrent d'un rire de connivence. Il en parut ému. C'était visiblement la première fois qu'il suscitait l'assentiment dans son patelin. C'est alors que me fut révélé ce qui arriverait. Cet homme me trahirait. Et mon cœur se serra. L'assemblée se dispersa, lui seul resta devant moi. Veux-tu te joindre à nous ? Lui demandai-je.
« C'est qui, nous ?»
Je montrai les disciples assis sur des pierres, un peu en retrait. « Ce sont mes amis, » dis-je.
« Et moi, je suis qui ?»«
Tu es mon ami. »«
Mais qu'est-ce que tu en sais ?»
Je compris que répondre ne servirait à rien. Il y avait chez lui quelque chose qui clochait. J'imagine que chacun a un ami de cette espèce, un ami dont les autres ne comprennent pas qu'il soit notre ami. Les disciples s'étaient tous cooptés d'emblée. Pour Judas, cela n'alla pas de soi. Il fit tout pour cela. Chaque fois qu'il se sentait apprécié, il disait ce qu'il fallait pour être rejeté.
« Fichez-moi la paix, je n'ai rien à voir avec vous, moi !»
S'ensuivaient d'interminables palabres où éclatait sa mauvaise volonté. « En quoi es-tu si différent de nous, Judas ?»«
Je ne suis pas né le cul dans le beurre !»«
Comme la plupart d'entre nous. »
« Mais ça se voit que je ne suis pas comme vous, non ?»«
Mais qu'est-ce que cela veut dire, être comme nous ? Simon et Jean, par exemple, n'ont aucun point commun. »«
Si, ils baient devant Jésus. » »«
Ils ne baient pas devant Jésus, ils l'aiment et ils l'admirent, comme nous. »«
Moi pas. Je l'aime bien, mais je ne l'admire pas. » »«
Alors pourquoi le suis-tu ?»«
Parce qu'il me l'a demandé. » »«
Tu n'y étais pas contraint. »
J'ai croisé plein d'autres prophètes qui le valent.
Il n'est pas un prophète.
Prophète, messie, c'est du pareil au même.
Rien à voir. Il apporte l'amour.
Mais c'est quoi son amour ?
Avec Judas, tout était toujours à recommencer de zéro. Il aurait découragé n'importe qui. Il m'a découragé plus d'une fois. L'aimer relevait de la gageure, et je ne l'en aimais que plus. Non que je préfère l'amour difficile, au contraire, mais parce qu'avec lui, ce surcroît était indispensable. Si je n'avais fréquenté que les autres disciples, j'aurais peut-être oublié que j'étais venu pour des gens comme Judas. Les problèmes vivants, les faiseurs d'embarras, ce que Simon appelle les emmerdeurs. C'est quoi son amour ? Bonne question. Chaque jour et chaque nuit, il faut chercher en soi cet amour. Quand on l'a trouvé, son évidence est si puissante qu'on ne comprend plus pourquoi on a eu du mal à y arriver. Encore faut-il rester dans son courant permanent. L'amour est énergie et donc mouvement. Rien ne stagne en lui. Il s'agit de se jeter dans son jaillissement sans se demander comment on va tenir, car il n'est pas à l'épreuve de la vraisemblance. Lorsqu'on est en lui, on le voit. Ce n'est pas une métaphore. Combien de fois m'a-t-il été donné de distinguer le faisceau de lumière reliant deux êtres qui s'aiment ? Lorsqu'elle vous est adressée, cette lumière devient moins visible, mais plus sensible. On perçoit les rayons qui entrent dans la peau. Il n'y a rien d'aussi bon à éprouver. Si l'on était capable alors de tendre l'oreille, on entendrait un crépitement d'étincelles. Thomas ne croit qu'en ce qu'il voit. Judas ne croyait même pas à ce qu'il voyait. Il disait
« Je ne veux pas être abusé par mes sens. » Quand un lieu commun est proféré pour la première fois, il produit son petit effet.
Judas est l'un des personnages qui va susciter le plus de gloses dans l'histoire. Comment s'en étonner avec un rôle pareil ? On affirmera qu'il s'agissait du prototype du traître. Cette hypothèse aura la vie dure. L'appel d'air suscité par cette condamnation aboutira évidemment à son contraire. À partir d'une identique pauvreté d'information, Judas sera déclaré le disciple le plus aimant, le plus pur, le plus innocent. Les jugements des hommes sont si prévisibles que je les admire de se prendre tant au sérieux. Judas, c'était un drôle de type. Quelque chose en lui résistait à toute forme d'analyse. Il était très peu incarné. Pour être plus précis, il ne percevait que les sensations négatives. Il disait « J'ai mal au dos » avec l'air de qui a découvert un théorème. Si je lui disais « C'est agréable cette brise printanière », il rétorquait
« N'importe qui peut dire ça !»«
C'est vrai, c'est d'autant plus délicieux », insistais-je. Il haussait les épaules histoire de ne pas perdre son temps à répondre à un simplet. Au début, tous les disciples ont eu du mal avec lui. Comme ils étaient gentils, ils essayaient de le réconforter. Cela rendait Judas très agressif. Peu à peu, ils ont compris qu'il valait mieux ne pas trop lui parler. Il ne fallait pas l'ignorer non plus, car sa susceptibilité s'effarouchait du silence, encore plus que des paroles. Judas était un problème permanent. D'abord, pour lui-même. Quand il n'y avait aucune raison de se fâcher, il se fâchait. Quand il n'y avait que des motifs de contrariété, il s'emportait. Par conséquent, il valait mieux le côtoyer dans l'adversité. Il était plus dans le ton. Avant de le connaître, j'ignorais l'existence d'une espèce perpétuellement offusquée. Je ne sais pas s'il fut le premier, mais je sais qu'il ne fut pas le dernier. Nous l'aimions, il s'en rendait compte, et s'efforçait de nous détromper.
« Je ne suis pas un ange, j'ai un fichu caractère !»«
On s'en est aperçu, » répondait l'un d'entre nous en souriant.
« Comment ? Tu peux parler, toi ?»
Quand il n'instruisait pas son procès imaginaire, il travaillait à détricoter notre affection. Il avait horreur du mensonge. En évoquant le sujet, j'avais remarqué qu'il ne l'identifiait pas. Par exemple, il ne parvenait pas à différencier le mensonge du secret. « Ne pas divulguer une information vraie, ce n'est pas mentir, » lui dis-je.
« Dès qu'on ne dit pas toute la vérité, on ment, » répondit-il.
Il n'en démordait pas. Comme j'échouais avec la théorie, j'essayais la casuistique. Une loi nouvelle déclare qu'on va condamner à mort les bossus. Ton voisin est affligé d'une bosse. Les autorités te demandent si tu connais un bossu. Tu dis non, bien sûr. Ce n'est pas un mensonge.
« Si, c'en est un !»«
Non, c'est un secret. » Si Judas avait davantage habité son corps, il aurait possédé ce qui lui manquait, la subtilité. Ce que l'esprit ne comprend pas, le corps le saisit. Avant l'incarnation, j'ai peu de souvenirs. Les choses m'échappaient littéralement. Que retenir de ce que l'on n'a pas senti ? Il n'y a pas d'art plus grand que celui de vivre. Les meilleurs artistes sont ceux dont les sens détiennent le plus de finesse. Inutile de laisser une trace ailleurs que dans sa propre peau. Pour peu qu'on l'écoute, le corps est toujours intelligent. Dans un avenir que je ne situe pas, on mesurera le quotient intellectuel des individus. Cela ne servira guère. Par bonheur, on ne pourra jamais évaluer autrement que par l'intuition le degré d'incarnation d'un être, sa plus haute valeur. Ce qui va semer le trouble dans cette affaire, c'est le cas des gens capables de quitter leur corps. Si l'on savait à quel point c'est facile, on n'admirerait pas tant cette prouesse, au mieux inutile, au pire, dangereuse. Si un noble esprit sort du corps, ce sera inoffensif. Sans doute peut-on trouver de l'agrément à un voyage, pour cet unique motif qu'on ne l'a pas encore fait. Semblablement, parcourir sa propre rue dans le sens inverse du quotidien est amusant. Point final. Le problème, c'est que cette expérience sera imitée par les esprits moyens. Mon père aurait dû mieux verrouiller l'incarnation. Évidemment, je comprends son souci de la liberté humaine, mais les résultats du divorce entre les esprits faibles et leur corps seront désastreux pour eux et pour autrui. Un être incarné ne commet jamais d'action abominable. S'il tue, c'est pour se défendre. Il ne s'emporte pas sans un motif juste. Le mal trouve toujours son origine dans l'esprit. Sans le garde-fou du corps, la nuisance spirituelle va pouvoir commencer. En même temps, je comprends. Moi aussi, j'ai peur de souffrir. On cherche à se désincarner pour se garantir une sortie de secours. Demain, je n'en aurai pas.